à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Nous sommes le mardi 14 novembre. Le calendrier passe à toute vitesse. On a déjà passé Halloween. On est en chemin pour Noël. On ne s'arrête plus, on ne s'arrête plus jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué quand même. J'ai fait une petite pause d'une semaine. Et donc, du coup, c'est pour ça que je n'étais pas là. Je n'ai pas veillé au grain la semaine dernière. C'était Jérôme qui m'a remplacée. Comment allez-vous dans la chatroom? Alors, avant de vous demander comment vous allez, je vais vous laisser le temps de répondre et je vais lancer tout simplement le générique de l'émission quand même. Rebonjour, rebonjour tout le monde, je suis Marion et ce matin on va débriefer de l'actualité tech avec le mug. Enfin une intro digne de ce nom quand même, j'ai même pas correctement introduit l'émission ce matin. Alors je regarde puisque je vous ai posé une petite question tout à l'heure pour savoir comment ça va bien dans la chatroom. Je regarde un petit peu qui nous a rejoint déjà. Salut Samuel, salut Grob, salut Laurie, salut Bistropixel. Bonjour à tous, de retour après une semaine grippée. Écoute, tu n'as rien raté, je n'étais pas là la semaine dernière, je rigole. Tu as raté plein de mugs hyper intéressants et pas que, des semaines et tout. Enfin, des vidéos, j'espère que ça va mieux en tout cas, Bistropixel. Salut FR Jess, salut Bastille, oui. Eh ben écoute, bienvenue à toi, tu sais quoi, on va parler du logo de Deezer ce matin, donc ça peut être cool. Je sais que tu as fait une vidéo, elle est cool d'ailleurs, une vidéo avec un live que tu avais fait sur le sujet, on va en parler. Donc à tout à l'heure. Salut Sana, salut Olivier SG, salut Déclic43, salut Samuel, salut Chose Publique, salut Pierre Roots, salut Néo9256, salut Poppy21000, salut Noirvent, salut à qui j'ai pas vu encore, salut Anvu, salut Ashtungb, un grand merci pour ton soutien, un grand merci à toi, et puis un grand merci également, oula ça fuse ce matin, un grand merci à Rack Pastis du jour et à Pax Magellanis également pour vos soutiens, hello à toi Pax, un grand merci, un grand merci également à Youn42 pour ton soutien, un grand merci à vous quatre, comment bien commencer la journée ou la commencer du bon pied, ça fait toujours super super plaisir. Je regarde à qui j'ai pas dit bonjour encore. Salut Pierre Neve. Tu ne vas pas manger du Queen Amman avec Jérôme. Ça y est, c'est fait. Hein. C'est bon. On a fait notre stock là. C'est bon. Salut Mécano. Salut Laetitia Chlepa. Salut Jamie. Salut Crazy Rems. T'as sorti la vidéo hier? Ben écoute, je l'ai vue hier. J'étais à fond. Écoute, je savais pas ouais, que tu l'avais. J'avais même pas regardé la date de sortie parce qu'en effet, ils l'ont changé il y a pas très très longtemps le logo. Salut Salsa Buni, salut Polaire. Il y a du monde ce matin. Salut Holmes. Salut Camillette, un grand merci pour ton soutien. Hello Marion, comment vas-tu? Écoute, ça va. Petit sommeil, j'ai été réveillée tôt par notre aspirateur robot qui a râlé. À 4h20 du matin, le robot aspirateur qui nous dit « Hey, il nous manque des trucs, il faut changer un filtre ou je sais pas quoi. » Je te dis « Ah, merci, c'est pas à 4h du matin que je veux le faire. » Donc du coup, un peu compliqué ce matin, mais c'est pas grave. On va aller éduquer un peu notre aspirateur robot pour qu'il se calme un peu. Trop de zèle. Salut Caradoc. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? Le soulèvement des aspirateurs, c'est exactement ça, FR Jess. Ah, j'ai pas changé le zoom. Et oui, c'était un petit zoom pour deux personnes. Excusez-moi, je fais le réglage en live. Hop, voilà, on est mieux. C'est plus intime, quoi, hein, quand même. Et vous pouvez toujours changer d'onglet si vous voulez pas voir ma gueule de bon matin, ce que je comprendrais. Voilà. Train de la hype, mais qu'est-ce qui se passe? Faut se calmer, mais je vais me faire taper sur la main si je dis ça. Mais un grand merci du coup à Télévoir 85, à Julien 92 FR et également à Artelis 21 pour vos soutiens à tous les trois. Un grand merci ce matin, ça fait plaisir. Mais quel accueil! Et donc du coup quand même. De quoi va-t-on parler ce matin? Programme Programme différent de d'habitude. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va revenir. Alors bon, ça, on en avait déjà un petit peu parlé. Je l'avais mentionné quand c'était arrivé. Gratuit, payant, Facebook, Instagram. Pourquoi ils font ça? Pourquoi que en Europe? On reviendra dessus et surtout, on se dira, est-ce que le prix est juste? C'est vrai que quand on en avait parlé, j'avais fait un sondage. Vous n'étiez pas hyper emballé à l'idée de payer pour Facebook et Instagram et vous disiez notamment que c'était trop cher. Eh ben, on verra si d'un point de vue business pour Facebook par rapport aux revenus que génère la publicité pour eux, est-ce que le prix est juste ou pas? Voilà. Ensuite, on enchaînera directement sur ce que je disais avec Bastioui dans l'intro. On parlera du nouveau logo, mais plus que juste un nouveau logo, c'est carrément une nouvelle identité visuelle pour la plateforme de streaming musique française. Eh ben, cocorico, ça fait plaisir aussi de parler de services français. Donc, on en profite ce matin. Et puis, cette nouvelle identité visuelle, elle vaut la peine qu'on en parle, qui a été réalisée par le studio Koto. Voilà, studio un peu habitué de bon et beau travail. Donc, on verra ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle identité visuelle? Ça serait intéressant de faire un petit sondage. Surtout que je fais l'hypothèse qu'il doit y en avoir parmi vous dans la chatroom qui utilise le service de streaming Deezer. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu... finalement, je suis jamais passée par Deezer. Je crois que je suis passée directement sur Spotify à l'époque. Pourquoi? J'en sais rien. On se posait toujours un peu la question soit Spotify, soit Deezer. Et il se trouve que j'avais commencé avec Spotify. Donc moi, je connais pas très très bien la plateforme, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous la connaissent bien. Voilà. Et puis, on parlera aussi d'Amazon. Amazon, et c'est même le titre de l'émission de ce matin, qui aurait passé un deal un peu secret avec la société de Steve Jobs ou de Tim Cook, comme vous préférez, pour, comment dire, les attirer un petit peu ou attirer leurs produits disponibles sur la plateforme Amazon à certaines conditions dictées, du coup, par la société de Tim Cook. Et ça, c'est assez inédit parce que c'est la seule marque qui a réussi à négocier un tel deal. Et on verra un petit peu en quoi il consiste et depuis quand il dure. Et puis après, on parlera aussi d'enjeux de recrutement en France. Pourquoi je vous parle de ça lors d'une émission tech? Vous allez me dire, eh ben, tout simplement parce que le secteur qui recrute, c'est la cybersécurité. Et ça, c'est super, super cool. C'est un enjeu vraiment critique déjà aujourd'hui, mais qui va de toute façon le devenir de plus en plus dans les années à venir. C'est là aussi où la sécurité d'un pays, les infrastructures d'un pays aussi peut être mise à mal. Et donc, les enjeux de cybersécurité sont de plus en plus importants. Et on est un peu en manque, finalement, de talent en cybersécurité en France, alors que c'est quand même un secteur auquel on fait particulièrement attention. Et donc, du coup, pour y remédier, il y a une stratégie qui a été mise en place. Et donc, on en parlera. Et voilà. Et donc, pour ceux qui, peut-être, sont un peu plus jeunes et se posent la question un peu de quel type de carrière pourrait être intéressant pour eux, eh ben, c'est peut-être l'opportunité de songer à la cybersécurité. Moi, personnellement, je trouve le sujet super, super cool. donc voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin. Et puis après, on parlera un petit peu plus de streaming. Alors, on aura déjà parlé de streaming musical, mais on va dévier vers le streaming vidéo. On va commencer notamment avec un nouveau service de streaming gratuit proposé par TF1. Oui, encore un. Voilà. Donc, on reviendra un petit peu sur en quoi il va consister. On parlera aussi d'un potentiel projet de film sur Elon Musk. Et oui, voilà, il n'est pas mort, je vous rassure, il est toujours vivant, mais il y a déjà un projet de film. Il faut dire que la vie d'Elon Musk est déjà pleine de rebondissements, on va dire, très 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 riche en rebondissements. Et donc du coup, c'est sûr qu'on peut se dire qu'il y a de quoi faire un film sur le personnage, sa carrière, ses faits controversés, que ce soit positif ou plus sujet à discussion. Et donc du coup, il y a ce projet qui est dans les cartons. On parlera un petit peu de ce qu'on sait sur ce projet. Et puis on terminera On terminera la matinée avec un trailer d'une série ou d'une nouvelle saison d'une série qui est très, très attendue. C'est la saison 2 de Arcane. Série attendue sur Netflix hein, et qui va, comme vous le savez, s'inspire, tirée de l'univers de League of Legends. La première saison avait beaucoup, beaucoup emballé hein, en suivant les deux sœurs Vi et Jinx, voilà, dans un monde un peu steampunk. Et donc leur épopée avait séduit à l'époque. Et donc c'est sans étonnement que on s'excite un petit peu autour de ce tout petit trailer qui est sorti la semaine dernière, enfin très récemment. Voilà, on terminera l'émission là-dessus. Donc vous voyez un petit peu plus inhabituel, un peu plus de streaming ce matin, un peu plus aussi de d'identité visuelle, on va dire ça. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de l'émission. Avant de commencer avec le premier article, j'en profite pour remercier les personnes que j'ai pas encore remerciées, notamment Charlie Belfort, Manciar, Mingus et Jordi McFly pour vos soutiens. Train de la hype niveau 4, terminé. Un grand merci à vous, à tous ceux qui nous ont soutenus ce matin et vont nous soutenir. Ça fait super plaisir. On commence vraiment dans une bonne ambiance. Ça, c'est cool. Et donc, on commence tout de suite avec le premier article. Alors, je ne vais pas vous refaire la news dont je vous avais déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe de manière un peu plus précise depuis novembre 2023 Meta, la société qui est derrière WhatsApp, Facebook, Instagram, propose aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram de payer 10 à 21 euros par mois pour éliminer les publicités sur la plateforme en fonction de la formule que vous choisissez. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une diversification du modèle économique de Facebook ici, c'est plutôt une stratégie pour être respectueux du règlement général de la protection des données. Alors, règlement, je ne sais pas si j'ai fait le bon acronyme là. Attendez, je vais vous le chercher en 2 secondes, si j'y arrive. Hop. Règlement général sur la protection des données. J'étais pas très loin. C'est ça. J'avais fait les bons mots, pas exactement les bons. donc voilà, donc c'était pour respecter le RGPD hein, qui a été instauré par l'Union européenne depuis 2018, ou en tout cas en application depuis 2018. Et il permet justement aux utilisateurs de l'Union européenne d'avoir le dernier mot en ce qui concerne leurs données. En permettant d'empêcher les services de prendre une décision à la place des utilisateurs. Donc ça a vraiment marqué un tournant, honnêtement, en Europe et notamment auprès des services qui sont disponibles sur Internet sur le respect et le traitement des données des utilisateurs en collectant notamment un consentement informé, éclairé. Pour le traitement des données des utilisateurs. Et donc ça, c'est vraiment positif. Alors certes, on a vu plein de petites pop-up ou de bannières pour accepter l'utilisation des cookies et l'utilisation des données à telle fin, etc. etc. Et du coup, bon, c'est vrai que l'effet un peu pervers, c'est que du coup, on ne prend plus vraiment le temps de lire qu'est-ce qui nous est demandé et comment sont utilisées nos données. Mais en tout cas, on a cette information qui est disponible et surtout, ça a demandé au service de montrer un peu plus patte blanche et d'expliciter quelles étaient les raisons d'utilisation des données et comment elles étaient utilisées et à quelle fin. Voilà, donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, Facebook ne s'y est jamais vraiment conformé parce qu'il considère que ses utilisateurs consentent au suivi publicitaire dès leur inscription. Ce qu'on pourrait argumenter comme vrai, mais le problème avec ça, c'est que c'est vrai qu'on se repose jamais la question et que du coup, c'est vrai que la manière dont est présenté le consentement lors de l'inscription, alors j'avoue que j'ai pas fait le faux d'inscription de Facebook récemment, mais à une certaine époque, ce n'était pas aussi transparent et clair. Voilà. Et donc, du coup, a priori, du point de vue, en tout cas, la Cour de justice européenne, eh ben, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, cette pratique de Facebook. Et ils ont demandé expressément à Meta de respecter les règles en juillet dernier. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, Meta a décidé de mettre en place un forfait à 9,99€ par mois ou 12,99€ sur iOS et Android pour pallier aux frais de souscription sur les App Store pour désactiver tout simplement le suivi publicitaire. Alors évidemment, avec toujours la petite nuance que si vous souhaitez ajouter un autre compte, un deuxième compte, ça sera 8€ de plus par mois, etc. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal de devoir payer pour que mes données ne soient pas exploitées à des fins publicitaires? Eh bien, ici, Meta s'appuie sur une décision de justice estimant que le consentement au suivi publicitaire peut avoir comme alternative une somme appropriée. Tout l'enjeu ici, finalement, est de savoir est-ce que la somme demandée par Meta est vraiment ce qu'on peut déterminer comme appropriée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une question. Et donc, du coup, ce qu'on peut regarder un petit peu, c'est combien gagne Meta ou comment Meta calcule le revenu par utilisateur en fonction de sa géolocalisation. Voilà. Donc, si on regarde un peu ça, au troisième trimestre 2023, on apprenait notamment qu'un utilisateur américain rapporte $56,11 par trimestre, soit presque $17 par mois. Si on regarde pour un utilisateur européen ici, il rapporte $19,04 par trimestre, soit $6 par mois, ce qui représente environ 5,6€. Voilà, je vous rappelle que l'abonnement est à 9,99€, hein, si je ne me trompe pas. Je l'ai dit il y a deux secondes, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est ça. Voilà. Et finalement, pour un utilisateur asiatique, il rapporte, lui, $5,12 par trimestre, soit moins de $2 par mois. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Donc clairement, il y a une vraie différence entre... en tout cas, là, on va s'intéresser du coup aux utilisateurs européens, puisque c'est ceux qui sont visés par cette mesure d'abonnement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre un abonnement à 9,99€ par mois et un revenu d'utilisateur généré par la publicité, par le financement publicitaire, à 5,6€ par utilisateur par mois. Donc, il y a vraiment une vraie différence de prix. Tout simplement, ce que pourrait argumenter Facebook, c'est que le fait d'avoir cette option d'abonnement et de payer, ben, va dévaloriser finalement le prix de la publicité sur la plateforme en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y aura potentiellement moins d'utilisateurs disponibles à targeter, à viser avec la publicité. Et donc, du coup, ça va faire baisser la valeur de la publicité sur la plateforme. Et donc, du coup, pour compenser, ils font un prix d'abonnement un peu plus cher que le prix aujourd'hui que génère un utilisateur avec de la pub. Potentiellement, ça peut être une manière de justifier finalement le prix à 9,99€. Une autre raison, c'est qu'ils ne veulent pas un prix potentiellement trop bas ou trop attractif parce que ça les intéresse pas trop de gérer les utilisateurs avec l'abonnement parce que ça fait plus de personnes potentiellement qui vont se plaindre si tout le système d'abonnement fonctionne pas super bien, etc. Voilà. Et que pour l'instant, ou tout simplement que pour l'instant, c'est les débuts. Et donc, une manière de dissuader un peu les gens, c'est d'avoir un prix peut-être un peu haut au départ. Ou finalement aussi une autre manière de voir la chose, c'est il est plus facile de tester la willingness to pay, comment traduire ça en français, le fait d'être prêt à payer pour un service et de savoir à quel prix les gens sont prêts à payer. Si on fixe un prix peut-être un peu trop haut et potentiellement le réduire pour voir quel est finalement le palier limite auquel c'est suffisamment intéressant pour Facebook pour le garder et suffisamment le juste prix pour les utilisateurs pour passer le pas. Donc voilà, si vous démarrez tout de suite avec un prix plus bas, vous n'allez pas pouvoir apprendre si un prix plus haut aurait marché puisque vous avez déjà fixé la valeur à un prix beaucoup plus bas. Par contre, si vous commencez avec un prix haut, eh ben, vous allez pouvoir tester si les gens sont prêts à payer pour ça et potentiellement baisser au fur et à mesure si vous voyez que finalement, ça ne mord pas à l'hameçon. Donc en termes de stratégie, c'est plus malin finalement de tester et d'apprendre de cette manière-là, à voir. Jérôme nous dit, c'est clairement un prix dissuasif. De plus, perdre la cible publicitaire qui a le plus d'argent est trop dangereux pour Meta. Voilà. Donc en effet, il y a ça aussi. Donc voilà. Donc c'est aussi un enjeu stratégique. C'est pas juste le méchant Facebook. Voilà. Et autre élément intéressant, c'est que finalement, avec cette information de prix par mois, enfin, ce que génère un utilisateur par mois en termes de revenus publicitaires pour Facebook, c'est pas anodin en Europe. C'est un marché quand même qui rapporte beaucoup d'argent à Meta et sur lequel, du coup, ils ne peuvent pas se permettre d'ignorer finalement l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'ils se battent un petit peu pour préserver son modèle, enfin, leur modèle économique. Voilà, je trouvais ça intéressant d'apporter cette lumière de aujourd'hui combien génère de revenus un utilisateur par mois pour Facebook, pour mettre un petit peu en perspective le prix de l'abonnement qu'il demande, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà en tout cas pour cette information et ce sujet sur Meta et Instagram. Je vous propose d'enchaîner directement avec Deezer. Et oui, ce matin, on va parler de Deezer. Deezer, vous le connaissez bien, c'est le service de streaming français, le service de streaming de musique français, voilà, que l'on connaît tous, enfin, en tout cas, tous les francophones, j'imagine, le connaissent. Et après plus de 15 ans de son logo, eh ben, ils arrivent avec une nouvelle version. Donc, je vous montre un petit peu l'historique ici. Hop. Vous voyez un petit peu affiché à l'écran les différentes versions du logo de Deezer. Le premier qui est complètement à gauche, dernier qu'on connaissait qui est celui du milieu et puis le tout nouveau dont on va parler aujourd'hui avec cette espèce de cœur vibrant violet complètement à droite. Donc là, c'est intéressant de noter un peu l'évolution. Historiquement, Deezer voilà, se jouait avec la notion d'équaliseur qui va permettre de gérer la qualité du son et de doser le son. Et donc, on voit que parmi les deux logos, hein, ils ont toujours gardé cette notion-là. Ils vont garder la notion d'onde dans la dernière version de logo, mais on s'affranchit un petit peu de l'aspect un peu rétro de l'équaliseur, très tech finalement. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu avant une vibe un peu rétro au logo Deezer qui n'était pas très très actuel. Alors évidemment, on peut se dire qu'en effet, le premier logo fait un peu daté et c'est pas très très étonnant. Il l'avait déjà simplifié et modernisé, notamment avec un dégradé qui se mettait dans la forme de l'équaliseur, etc. Mais il y avait quand même cette notion qui était plus centrée sur la tech que sur l'émotion que ça génère. Et quand même, la musique, s'il y a bien quelque chose pour lequel c'est connu, c'est l'émotion que ça génère chez les personnes qui écoutent la musique. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on atterrit vers cette nouvelle version de cœur vibrant de love music et live music, de musique vivante et qu'on aime. Avec quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Alors après, c'est un peu littéral. Moi, c'est un peu mon avis, je trouve, d'avoir mis un cœur avec des ondes. Autant j'aime beaucoup le traitement d'ondes, comment ils l'ont géré, avec cette espèce d'élément de bulles ovales qui se groupent ensemble et qui vont vibrer, morpher en fonction des besoins, du rythme de la musique, etc. Je vais vous montrer quelques exemples après. Je trouve que le logo Deezer est finalement l'élément le moins réussi du système de l'identité visuelle proposé par Koto. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que la place du logo est peut-être de moins en moins importante aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs, Bastille UI avait parlé de ça dans sa vidéo, mais que c'est plutôt le système, finalement, et comment ce système s'applique au service en tant que tel, qui va être encore plus intéressant, donc au service, mais également à la communication. Parce que ce qui est intéressant avec Deezer, c'est qu'une grosse partie de leur travail de communication, ça va être sur la communication des artistes, des nouveautés, des styles de musique, etc. Donc voilà, là vous avez un aperçu en tout cas des différents logos. Et donc voilà, après plus de 15 ans de barres colorées, donc d'équaliseurs en guise de logo, ben, Deezer se refait une beauté avec sa nouvelle identité plus émotionnelle. Et donc pour rappel, Deezer a été créé en 2007 hein, quand même, ça remonte, hein. C'est fou, voilà, ça fait partie de cette génération de société. Elle avait déjà eu donc comme on, enfin le service avait déjà eu un redesign comme on, je viens de vous le montrer en 2019 avec une typo qui passe en minuscules, donc plus proche des gens, hein, voilà, les lettres minuscules par rapport au capital vont être beaucoup plus proches et créer une connivence avec l'utilisateur, être plus accessible et avec un espèce de gradient, de dégradé qui, voilà, est un peu de mode dans les différentes sociétés, enfin voilà, dans le secteur de la tech. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc voilà, donc le nouveau design, la nouvelle identité de Deezer a été annoncée le 8 novembre 2023 avec un nouveau slogan Live the Music, donc vivre la musique, et le tout s'accompagne évidemment d'une interface qui a été mise à jour. Alors ça va être progressif hein, parce que c'est pour un service de cette taille-là, c'est rarement possible de tout mettre à jour d'un coup. Donc du coup, ils ont voilà, ils vont faire sûrement un déploiement progressif, mais c'est déjà déjà pas mal pour un lancement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut noter déjà avec cette sortie. Alors, on va faire le petit sondage, hop, dans la chatroom, hop, parce que je suis sûre que vous avez un avis. Voilà. Alors, comment trouvez-vous la nouvelle identité de Deezer? Voilà. Et on fait le petit sondage. Voilà. Donc, comment trouvez-vous la nouvelle identité de Deezer? Top, pas mal, partagé, bof, je déteste. Donc, allez-y, vous avez 2 minutes pour voter. Et tu écoutes en audio, est-ce que tu as le droit de voter? Si tu as vu la nouvelle identité visuelle, oui. Si tu ne l'as pas vue, non. Tu vas sinon biaiser les résultats. Et donc, du coup, ce qui est intéressant déjà, c'est que la nouvelle identité visuelle n'est pas passée inaperçue. Donc ça, c'est un premier succès, je dirais, pour Deezer. C'est que ça crée le débat. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les réactions quand vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur le nouveau logo Deezer ou la nouvelle identité visuelle, eh ben, ça divise notamment ce cœur violet, dont moi, personnellement, je ne suis pas non plus, convaincue. Je comprends le message derrière, mais je ne suis pas non plus super convaincue. Pourquoi je ne suis pas convaincue? Parce que je trouve qu'il n'est pas intemporel. Je trouve que ce logo manque d'intemporalité et je pense qu'il va mal vieillir dans le temps. Il est très, très actuel, très branché. Et clairement, il s'adresse à un certain type de population, un âge de population, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, c'est là où je pense que c'est peut-être un peu le problème de ce logo-là. Autant j'aime beaucoup le reste du système que je vais vous montrer juste après, autant le logo, c'est peut-être la partie que j'aime le moins pour cette raison-là. En effet, on pourrait argumenter que le cœur, c'est un peu facile, que ça ressemble à une chauve-souris, moi, ça me pose pas problème, que ça fait très Halloween. Alors, c'est vrai qu'ils ont sorti un logo violet qui peut faire penser un peu à une chauve-souris proche de Halloween. Enfin, moi, j'aurais été eux, j'aurais même carrément sorti le jour d'Halloween pour surfer sur cette notion-là. Mais je pense pas que ce soit un problème en tant que tel. Voilà, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ce qui est certain, c'est que c'est un vrai changement pour Deezer, même par rapport à la précédente refonte qui était quand même beaucoup plus proche du premier logo. Ben là, on a vraiment un tournant qui se marque. Et clairement, Quand un logo marque les esprits, c'est déjà une victoire. Rappelez-vous le nouveau logo de Airbnb à l'époque, tout le monde le détestait. C'était quoi, le Bello, je crois, qu'il l'avait appelé, qui ressemblait aussi à un cœur inversé un peu. Hein, voilà, et tout le monde avait vu soit des signes un peu plus suggestifs qu'un cœur, etc. Et l'avait détourné. Et en fait, rien que ça avait servi finalement le propos d'Airbnb pour ancrer la nouvelle identité de marque. Et aujourd'hui, plus personne ne se questionne finalement sur le logo Airbnb. Donc voilà, donc c'est que ça a marché. La Deezer, le fait que pas mal de personnes en parlent et challenge, voilà, pour le bien ou le moins bien, eh ben, c'est déjà un succès. J'ai raté le résultat du sondage. Hop. Et l'interface Twitch ne permet pas de voir le résultat. Je crois que la majorité, c'était... Est-ce que vous avez fait une capture d'écran ? Seb nous dit, je suis d'accord, tout est réussi sauf le logo et je suis un utilisateur de Deezer depuis ses débuts. Un logo n'est pas vraiment fait pour être aimé, mais pour marquer qu'on s'en souvienne. Exactement. Exactement, et je pense que c'est là où Deezer a réussi. C'est que, en tout cas, le logo divise et génère des discussions et donc du coup déjà les gens se l'approprient, ne serait-ce qu'en critiquant ou en disant bah non, moi je l'aime bien, non je l'aime pas, il ressemble à une application de dating ou il ressemble à une chauve-souris, etc., etc. Il se l'approprie déjà en l'interprétant, et ça c'est intéressant, et donc déjà voilà, ça c'est vraiment une victoire de la part, enfin pour Deezer, et puis après bah, je vais vous montrer un petit peu d'autres aperçus, hop, de ce qu'on peut voir notamment dans l'application. Hop, voilà, je vous montre un petit peu. Et là, alors, l'expérience de l'application ne change pas vraiment. Donc, vous n'allez pas être perdu, mais on voit déjà la transition qui est gentiment amorcée vers la nouvelle identité de Deezer. Alors, notamment avec les icônes. Les icônes qui sont très réussies et qui reprennent cet effet un peu bombé de l'ovale des ondes de Deezer. Vous avez également les rubriques et les images des rubriques comme Blind Test Podcast qui reprennent ça. On a la couleur donc violette qui arrive comme accent color. Vous voyez sur tous les boutons ou les états actifs. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis, vous avez finalement la nouvelle typographie qui a été conçue exprès. Elle a été faite maison hein, par rapport aux courbes et aux lignes du logo. Elle a été faite maison pour Deezer, que vous pouvez voir dans les titres type Flow, Mon Top d'Octobre, Explorer, Favori, et qui va être décliné dans différentes variantes que vous pouvez voir notamment dans 5 rappeurs UK, si t'aimes Central Cee. Tu penses vraiment écouter de tout, etc. Avec un line hate, donc un espace entre les lignes assez serré, voilà, qui fait très actuel. Donc là, vous pouvez voir, voilà, un peu plus d'images. Je peux vous montrer plus de choses. On va aller directement sur le site de Koto, l'agence, le studio qui a fait ce travail d'identité visuelle. Et vous allez voir qu'une identité visuelle, ça va bien plus loin que juste un logo. Et donc voilà, le nouveau logo représente vraiment un cœur qui bat pour représenter la musique que l'on aime et ce sentiment d'appartenance que peut développer la musique et le fait que le rythme, le battement du cœur va varier en fonction du rythme de la musique. Donc je trouve qu'en effet, il y a une simplicité ici. Dans le discours qui marche très bien. Donc voilà un petit peu le logo de Deezer animé. Et on sent, moi ce que j'aime beaucoup et que je trouve très réussi sur cette identité visuelle, c'est qu'elle a été pensée vivante. C'est-à-dire que l'identité visuelle de Deezer, quand elle n'est pas animée, elle est sympa, vous allez voir un petit peu les déclinaisons en bas, mais vraiment elle prend encore plus son sens quand elle est animée. Et là-dessus, je trouve que ça la rend vraiment très, très actuelle ici. Donc, vous voyez que j'ai beau ne pas être la plus fan du logo de Deezer, je trouve qu'une fois animé, il fonctionne particulièrement bien. Un autre élément qui fonctionne bien, c'est les déclinaisons d'animation du logo. Et là, vous pouvez rigoler, notamment, enfin rigoler, vous amuser à voir entre les différents mouvements de danse qu'on peut avoir avec le headbang, le sway, le breakdance et le sidestep, que je trouve particulièrement cool. Et là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Il y a vraiment quelque chose de vivant, quelque chose qui se passe ici au niveau de l'identité visuelle. Et donc après, ça va être évidemment décliné, en différents supports. Et donc là, vous pouvez voir un petit peu les différentes affiches. Et là, c'est intéressant parce que certaines affiches ne mentionnent même pas le cœur battant, mais uniquement ces espèces d'ondes ovales, et ça suffit. C'est-à-dire que le langage graphique de l'identité visuelle marche très bien parce qu'il va pouvoir se décliner sans tout le temps plaquer ce cœur d'onde partout. Et il va pouvoir être adapté en motif, en player, en fond coloré, comme vous le voyez ici, avec ces petites ondes qui dépassent sur la photo de l'artiste pour avoir more mood than a sulky X. Voilà. D'autres exemples ici de fond animé, avec une petite animation un peu élastique, un peu bouncy, qui rebondit, très dynamique et assez, il y a un côté fun, un côté léger dans l'animation ici, qui marche très, très, très bien. Vraiment, là, moi, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Évidemment, quelque chose de très important pour Deezer, c'est évidemment son player. Pour une marque et un service qui est sur justement du service de streaming, le player est un élément clé pour communiquer la marque. Et donc, ben, ici, très logiquement, ils ont travaillé sur l'animation et la déclinaison. Comment l'identité se décline ici sur la marque, enfin sur les différents supports. Et là, vous pouvez voir qu'en fonction du type de musique et du rythme, eh ben, les ondes sont un petit peu différentes et les animations sont différentes. Un autre élément très réussi, je trouve, c'est les icônes. Vous voyez un peu tout le travail d'icônes qu'on voit défiler à gauche. Ça, c'est, le cœur est excellent, le player fonctionne très bien. Là aussi, ça va reprendre les formes de ces ovales qui servent d'ondes et ça fonctionne vraiment très, très bien. Et les icônes, c'est vraiment, vraiment une manière très subtile de tout de suite identifier où est-ce qu'on est. Et je trouve que le cœur fonctionne particulièrement bien. Et la petite animation aussi du play, ici, marche très, très bien. Après, la typographie, donc je vous l'avais dit, hein, la typographie a été faite vraiment exprès pour Deezer. Je suis moins fan. Je trouve qu'elle a un problème d'accessibilité, de lisibilité. Alors, vous voyez ici les différentes déclinaisons, hein, plus ou moins condensed et bold, en fonction des besoins. Donc, elle est quand même assez versatile. Mais voilà, je ne suis pas ultra convaincue, surtout de l'usage de cette typographie, en plus en capital pour Deezer. Je trouve que ça la rend assez difficile, mais voilà, ça c'est mon avis personnel. C'est l'autre élément où je suis pas hyper convaincue, mais l'ensemble fonctionne, hein. Voilà, tout à fait, ouais. Basti a fait une vidéo là-dessus, il a fait un live qu'il a ensuite monté en vidéo, en effet je l'ai vu, ouais, elle est sortie hier, il nous a dit tout à l'heure. Et donc là, encore une fois, d'autres exemples sur comment ça se décline, que ce soit en termes de combinaison colorée avec les ondes ou que ce soit carrément avec les pochettes d'artistes. Je trouve que là, ça fonctionne très, très bien. Là, vous avez des exemples. Et là, vraiment, je trouve que c'est très, très efficace. Et comme je vous disais, ce que je trouve particulièrement efficace de la part de cette identité visuelle, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le cœur ou le nom Deezer partout. Alors là, on a quand même le nom Deezer pour identifier que c'est, que c'est Deezer. Allez-y, vous pouvez mettre le lien de la vidéo Basti UI pour ceux qui veulent creuser un peu et avoir l'avis de Basti sur cette identité visuelle. Vu que nous, on va pas faire de vidéo sur la chaîne de toute façon, autant faire la promo des autres contenus sur le sujet. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette de voir un peu la déclinaison. Et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Alors, ce que j'aime moins aussi, c'est le bouton, la forme du bouton, là, Listen Now. C'est là où je ne suis pas hyper encore convaincue sur le mix entre les shapes très ovales et les shapes à angle plus marqué, qui rejoignent un peu plus la fonte aussi. Je trouve que ouais, je suis pas emballée par ça. Et là, vous avez d'autres exemples ici sur les différents styles de musique, etc. Donc voilà. Vous avez fait un petit peu le tour du propriétaire de cette nouvelle identité visuelle. Et donc voilà, donc moi, pour résumer, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment réussie. Elle marque vraiment un tournant pour le service de streaming. C'est très organique, tout à fait. Pour moi, il n'y a rien à perdre. De toute façon, Deezer sait qu'ils ne passeront jamais devant Spotify et que leur identité commence à vieillir un peu. Donc autant changer maintenant. Oui, je pense qu'il n'y avait pas forcément de... Oui, le problème de Deezer, de toute façon, c'est l'international. Ça reste assez compliqué. Il y a eu une course au service de streaming. Et en fait, ça va être très compliqué pour Deezer de rentrer en compétition avec Spotify, Apple Music et compagnie à l'échelle internationale. En France, ils ont quand même encore une belle part, hein. Donc il faut qu'ils en profitent. Hein. En juin 2023, Statista estimait que 44% des Français qui utilisent un service de streaming feraient confiance au service suédois contre 34% pour Deezer. Donc c'est quand même pas mal en termes de services préférés en France. C'est vraiment une belle part de marché, hein, les deux leaders en France. Et tout en gardant en tête que c'est difficile de comparer notamment à YouTube ou d'autres services qui sont gratuits, même si Deezer a une formule gratuite avec publicité. Donc voilà, donc c'est quand même une belle présence sur le marché. Et je pense que ouais, c'est une vraie opportunité pour eux de se rendre actuel sur une certaine tranche d'âge. Et voilà, Basti UI nous dit, ils essayent peut-être de cibler plus jeunes. Moi, je trouve que cette identité visuelle est vraiment marquée en termes d'âge. Elle ne me vise pas, quoi. Elle va vraiment utiliser des codes graphiques qui vont viser une certaine tranche d'âge. Et ce n'est pas une critique. Je pense que c'est par rapport à la stratégie de Deezer. Et encore une fois, si un service est capable de bien définir sa cible en termes d'utilisateur, et ben c'est très bien d'adapter le service, que ce soit identité visuelle, expérience, etc., en fonction de cette cible. Rappelez-vous les critiques, notamment sur Snapchat, où on disait l'expérience inutilisable, mais en fait, elle était inutilisable pour les vieux, pour moi, etc. Et en fait, elle marchait très bien avec la cible cœur du service. Voilà, donc après, le truc, c'est que Snapchat a essayé de grossir et de grandir et donc de viser plus large en termes d'audience et donc avoir une fourchette d'âge plus étendue. Et donc, c'est là où ils avaient introduit des changements d'expérience pour être plus accessibles, un peu plus pour tous. Mais voilà. Est-ce que Deezer recrute en France avec des campagnes de pub? Car à l'étranger, j'ai jamais vu une pub Deezer. Oui, ben, je pense que Deezer est présent notamment sur des événements musique, etc. Je crois que j'ai déjà vu des campagnes publicitaires aussi en France. Pas forcément récemment, mais peut-être que justement, là, la nouvelle identité visuelle sera l'occasion. Donc moi, je trouve ça bien. Je trouve que globalement, vraiment, le travail de l'identité visuelle est vraiment réussi par l'agence Koto. Et bien actuel et vise un certain public. Je pense que c'est assez clair. Je ne pense pas que ce soit un hasard qu'elle soit connotée en termes d'âge. Et dans ce cas-là, je trouve ça très, très malin. En effet, comme je disais, je ne suis pas la plus emballée par le logo, mais finalement, le logo Vous allez le voir sur le logo de l'app. Et puis après, finalement, après, dans l'expérience du produit ou même dans la communication, il va passer un peu au second plan parce que finalement, Deezer va se reposer sur son système visuel avec les artistes qu'ils vont promouvoir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a des imports possibles, des playlists d'une plateforme Deezer à Spotify ou l'inverse. Télévore, très probablement. Moi, je sais que j'ai utilisé un service externe pour transférer mes playlists Spotify, sur Apple Music quand j'ai voulu tester et changer de service. Alors, moi, historiquement, j'avais commencé sur Spotify et récemment, maintenant, ça doit faire quoi? 2 ans? J'ai changé pour Apple Music. C'est vrai que c'est assez douloureux le changement de service de streaming de musique. Parce qu'on a un peu ses petits, sa bibliothèque de musique, etc. Mais est-ce que je regrette? Je sais pas. Il y a du bon et du moins bon. Je trouve qu'en termes de stabilité du player et de l'écoute de musique, Apple Music est moins bon que Spotify. En tout cas, à l'époque où j'ai changé. Peut-être qu'aujourd'hui, Spotify est moins bon, j'en sais rien. Mais quand j'ai changé il y a 2 ans, il y avait vraiment des coupures de moins en moins côté Apple Music. Mais bon, je trouve quand même que c'est un peu moins stable. En termes d'interface, je trouve que Apple Music est un peu plus clean. Il y a un peu moins de trucs partout. Et donc, du coup, je trouve ça plus facile à utiliser. Voilà. Mais bon. Après, moi, j'ai un usage un peu particulier où je ne me repose pas forcément sur les suggestions. Je vais aller vraiment chercher les artistes qui m'intéressent. Donc, voilà. Alors, je regarde un peu vos commentaires. À savoir que Deezer est utilisé majoritairement par des gens qui écoutent de la pop, du rock et de l'électro. L'identité va beaucoup dans ce sens, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Merci pour l'info, Flonflon. Je regarde un peu. Oui, c'était pas prévu. On a 2 personnes au top dans le chat, Bastille UI et Flonflon, ouais, tout à fait. Hop. Je regarde un peu vos commentaires. J'ai eu Deezer, Spotify, YouTube Music et maintenant je teste en hybride YouTube Music, Apple Music pour le lossless. D'accord. Ah ouais, t'as fait quand même pas mal le tour des services de musique, Mingus. Je trouve les algos de suggestion très mauvais sur Spotify, nous dit Mitsu Isaka. Ouais, moi je vais pas être la meilleure placée pour changer là-dessus parce que comme je vous le disais, je suis pas très suggestion automatique. Je vais tendance à aller faire ma propre curation, ce qui n'est pas forcément le comportement le plus répandu sur ce type de plateforme. Je confirme, j'aimerais bien que les services de musique se connectent entre eux. Oui, enfin, t'as d'autres services hein, qui existent pour ça. Je viens de quitter Deezer car le passage à 19,99€ pour la famille, c'était bien plus intéressant de prendre Apple One pour la famille avec Apple TV et plus. C'est Irgachev, c'est exactement la même raison pour laquelle j'ai pris Apple Music. C'est qu'en fait, on a pris un abonnement Apple One avec Jérôme. Et donc, du coup, en effet, d'un point de vue prix, il n'y avait pas forcément de raison que je paye un autre. J'ai dit le mot interdit. Je savais que j'avais un article auquel il fallait que je fasse attention, mais j'avais pas anticipé celui-là. Je me suis fait avoir. Merci, Jamise. Tu as ouvert les oreilles. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Je me suis fait piéger par cet article. Bouh, t'as raison, Guigui Vulgaris. Camille nous dit, elle utilise Spotify Premium. Il faudrait une option, je déteste cet artiste pour contrer l'algorithme de suggestions foireux. Ouais, non, après, si tu passes, il apprend. Hein. Donc, voilà. Bon, en tout cas, En tout cas, voilà pour le changement. C'est bon, allez-y, trollez-moi dans la chatroom. On va voir si c'est la seule fois où je craque pour dire le nom de la marque que j'aurais pas dû dire ce matin. Avant de passer à l'article suivant, j'en profite pour remercier Sana et Ponemore et Dr Rictus pour leur soutien. Un grand, grand merci à vous pour votre soutien. Ça fait super plaisir. Il y a Jérôme qui vous dit, en même temps, vous n'avez pas non plus le droit d'écrire la pomme dans le chat non plus. Donc, boue sur vous aussi. Ah bah, ça promet là ce matin l'ambiance. Allez, je vous propose d'enchaîner sur le prochain article. Je vais avoir un petit problème de batterie, je pense, sur mon iPad. Je pense que je vais avoir mon iPad qui va me lâcher avant la fin de l'émission. Il me reste 16% de batterie. Suspense, si Jérôme dans la régie, t'as une méthode ou un câble que je pourrais utiliser pour essayer de recharger, parce qu'il se trouve que le câble que j'utilise ne recharge absolument pas l'iPad. Voilà, un petit problème de rechargement cette nuit. On enchaîne avec le fameux article où j'étais censée éviter de dire la société de Steve Jobs, ou le nom de la société de Steve Jobs. Hop, petit intervention. Hop, discrète. Merci, tu me sauves. Et donc, on va enchaîner sur le deal secret d'Amazon avec la fameuse société de Steve Jobs ou Tim Cook, comme vous préférez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, alors attendez, je reprends mon article et mes petits. En 2018, Amazon a conclu un deal secret et exclusif avec la société de Craig Federighi, parce qu'il est classe, pour ne pas montrer de publicité sur les pages liées aux produits de la marque. Une pratique qui est unique et qui n'est proposée jusqu'ici à aucun concurrent. Et c'est justement ce qu'a découvert le média Inside en couvrant une affaire de concurrence déloyale devant la justice américaine. Dans cette affaire, Amazon est accusé justement d'afficher de très nombreuses publicités sur les pages des produits pour maximiser ses profits au détriment des marques qui vendent sur la plateforme. Sauf, justement, dans l'écosystème ou dans les pages des produits de la marque à la pomme, voilà. Et donc, moi, j'ai fait le test, hein, et c'est très facile à faire. Vous pouvez vous rendre sur le site Amazon, sur l'application Amazon, comme vous voulez, et tester par vous-même en direct. Craig. L'écosystème de quelle marque? Non, mais je vous vois dans la chatroom, là, flonflon et tout, à essayer de me faire craquer. Pour l'abonnement d'Apple. Non, mais c'est pas possible. En plus, j'ai lu le commentaire et je me suis dit, je vais reformuler pour pas dire le nom de la marque. J'allais dire pour l'abonnement One, il faut être dans le même foyer. Oui. Et donc, du coup, je viens de replonger dans le piège alors que j'étais consciente. Je suis un peu fatiguée, comme je vous l'ai dit. Le réveil du robot aspirateur à 4 heures du matin impacte un petit peu ma vigilance ce matin. Et vous êtes sans pitié dans la chatroom. Merci RGE065 pour ton abonnement. Tu ne me tiens pas à rigueur de ma chute de marque, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc vous pouvez tester par vous-même, soit en vous rendant sur le site Amazon, que je peux dire, ou sur les applications Amazon, et tester par vous-même, tout simplement, en cherchant le nom de la marque que je ne peux pas prononcer ce matin. Voilà, tout simplement, déjà dans la page de résultats de recherche, alors je ne peux pas la dire, mais on peut l'afficher quand même à l'écran, comme ça je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est très compliqué parce que du coup elle est affichée partout, il ne faut pas que je la lise, mais là vous pouvez voir du coup une capture d'écran de qu'est-ce qui se passe quand vous cherchez justement le nom de la marque à la pomme. Vous voyez le terme de recherche tout en haut, avec 6000 résultats pour la marque, et là vous voyez en effet sur les premiers résultats, en tout cas il n'y a pas de pub sponsor, enfin, s'il y a de la pub sponsorisée, mais il n'y a pas de produit autre qu'Apple. On ne voit pas mon iPad. Hop. Ah ben oui, il est plus branché. Oh là 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 là, moi je ne vais pas y arriver ce matin. Il était branché pour la recharge et donc du coup ça ne marche plus pour vous montrer les captures. Alors on va lui laisser le temps hop, de se reconnecter. Voilà. Donc là vous voyez un petit peu à l'écran un exemple donc de résultat. Ouais, c'est dur ce matin, je suis désolée. Et donc vous voyez un résultat de page Amazon pour le terme de recherche de la marque. Et donc, il n'y a rien d'autre comme produit que des produits à la pomme. Donc ça, c'est assez relativement clean selon les standards Amazon, on va dire ça comme ça. Et donc, autre exemple. Il faut juste que j'arrive à sortir de la preview. Autre exemple, si vous cherchez un autre terme, comme par exemple une marque concurrente que elle, je peux nommer, qui est Samsung, et ben la première chose que vous voyez, c'est une pub pour les Google Pixel. C'est un peu ballot quand même, avec des produits qui sont loin d'être les produits phares de Samsung en dessous. Quand même, c'est assez dégueulasse, quoi, comme page de résultat, quoi. Donc là, vous avez une illustration directe de ce que ça donne. Un peu dommage pour eux, quoi. Donc voilà, donc on aurait pu se dire que c'était enfin voilà, c'est quand même assez étonnant comme pratique en effet, mais en tout cas avec ce test très très facile, on se rend compte en effet que le traitement est quand même très très différent. Donc voilà, sans même juger de la pertinence de la recherche qui affiche en premier des appareils professionnels et des batteries avant de montrer les produits même de Samsung, les produits phares de la marque coréenne, on s'aperçoit du coup que Amazon en France affiche des publicités carrément pour son concurrent, ce qui n'est absolument pas le cas quand vous faites quand vous recherchez les produits de la société de Steve Jobs. Voilà. Et même au niveau des pages produits, c'est beaucoup plus clean. Vous avez exactement le même problème. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous le montrer, mais vous pouvez regarder par vous-même. La page produit d'Amazon a exactement le même principe. Et pourquoi ? Tout simplement parce que... je me suis arrêtée. Tout simplement parce que la marque à la pomme a négocié un accord commercial avec Amazon pour que le géant du e-commerce tienne les autres marques et les junk ads, ces espèces de pubs poubelles qui s'affichent un peu partout. Voilà, je dis app et pas le reste, à l'écart de ces pages. Un accord qui a été acté depuis 2018. non, elle n'a pas dit. Ah, on y était presque. Je me suis corrigée in extremis. Vous allez pouvoir garder un compteur à la fin de l'émission pour me dire combien de fois j'aurais craqué. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pourquoi ? Alors, voilà, quelque chose qu'on pourrait reprocher quand même à Amazon, et on pourrait se questionner sur la légitimité de cette pratique avec cet accord signé entre Amazon et la société de Steve Jobs, c'est que ça peut potentiellement représenter une concurrence déloyale pour les autres marques. Et là, c'est vrai que pourquoi Amazon n'a pas cédé pour permettre aux autres marques d'avoir un deal de la même manière ? Eh bien, tout simplement parce que Amazon semble carrément refuser aux concurrents de la firme à la pomme cette simple possibilité d'avoir un environnement aussi épuré, car ce n'est même pas une option commerciale. Par exemple, Samsung n'a même pas ce choix-là. Le business de la publicité pour Amazon, qui représente aujourd'hui 38 milliards de dollars, en tout cas en 2022, est probablement bien plus rentable qu'une multiplication des deals marque par marque pour s'assurer d'avoir justement des pages plus épurées et éviter ce genre de publicité. Et donc là, à voir s'ils se feront épingler un petit peu dans le futur pour une pratique qui favoriserait une marque plutôt qu'une autre, à voir. Mais en tout cas, pour l'instant, le constat, c'est que voilà, uniquement la marque de Craig Federighi peut se targuer d'avoir ce traitement de faveur. On gagne quoi si on te fait craquer? Juste le plaisir de me faire craquer, c'est tout. Il n'y a pas de gage ou quoi que ce soit. C'est quoi la marque de noir? Je pense que tu le sais. Ah, je peux dire le nom de la marque en allemand? Je vais même pas tenter. Je regarde un peu vos commentaires. En termes d'expérience utilisateur, est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites sur ce type de pub et leur nuisance? Bah, Jean Lama, très clairement, Amazon a dû faire ce type d'études pour voir qu'est-ce qui était le plus performant pour eux, pour passer à l'achat et potentiellement favoriser certains produits. Le but, c'est ça aussi, hein. Donc, oui, je pense que c'est le cas. Donc voilà en tout cas pour cet article. Je vous propose de passer à la suite en parlant potentiellement d'une carrière qui pourrait vous intéresser. Et là, on va parler de cybersécurité. Alors pourquoi on parle de cybersécurité et de carrière en cybersécurité? Tout simplement, la France manque de spécialistes en cybersécurité avec plus de 15 000 postes vacants. C'est quand même... Voilà, pas rien quand même à garder en tête, quoi. Et il me manque tout mon article. Pourquoi? Numérama, qu'est-ce qui se passe? Où est passé mon article? Ah voilà, mon article est revenu. Voilà, et donc du coup, c'est pour ça que le ministère de l'Éducation nationale, l'ANSSI, qui assure la cyberdéfense de l'État, et le campus cyber lance conjointement une vaste campagne baptisée Demain spécialiste cyber. Elle a été annoncée le 13 novembre, donc hier, dans l'espoir justement de recruter, de pallier justement à ce manque de ressources afin de créer des vocations au collège et au lycée. Et donc là-dessus, pour cette stratégie, ben, il y a évidemment les traditionnels, peut-être spots télé, affiches, etc. Il y a le milieu de la cybersécurité française qui espère potentiellement sa série télé, son propre peut-être bureau des légendes. Un scénario qui a déjà été rédigé d'ailleurs par Alex Berger, producteur de la célèbre série sur les agents du renseignement, après une rencontre avec plusieurs professionnels lors de salons spécialisés. Le projet est actuellement en recherche de financement auprès des grands studios, mais pour l'instant, il n'y a rien d'encore super acté. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les effets des séries télé, ça marche. On a notamment la mini-série britannique The Undeclared War, qui serait également une inspiration. Le feuilleton qui est centré autour d'une équipe de cybersécurité confrontée à l'ingérence russe aurait multiplié par 6 les recrutements dans les services des renseignements. Même effet, on parlait du bureau des légendes, même effet pour le bureau des légendes, puisque les CV ont défilé dans les bureaux de la DGSE au pic de la saga. Donc c'est pour ça qu'il y a cet enjeu potentiellement de, en plus des leviers de communication traditionnels pour promouvoir une nouvelle carrière, un nouveau type de carrière, eh ben, la série télé pourrait susciter des vocations. En attendant que ça se réalise, on a l'ANSSI et le campus cyber qui misent sur des modules dans les collèges et les lycées pour faire découvrir les métiers aux adolescents. Donc on a 500 épreuves de hackathon qui sont prévues à travers le territoire pour offrir justement une expérience de qu'est-ce qu'est la cybersécurité. Il y a également des jeux de société cyber en jeu qui seront partagés, dans lesquels les élèves pourront choisir une équipe, attaquant ou défenseur, et chacun devra avancer ou reculer en fonction des logiciels malveillants ou des moyens de protection. Il y a également une plateforme d'entraînement, hein, à l'OSINT, l'Open Source Intelligence, qui permet justement d'enquêter à partir de sources disponibles et ouvertes qui sont mises à disposition. Et les enseignements permettent justement de vérifier des images ou des publications sur les réseaux sociaux et de déterminer leur authenticité. Donc ça, je trouve ça assez cool, surtout dans cette ère de désinformation. On peut devenir un expert ou en tout cas avoir les bons outils et les bonnes stratégies pour pouvoir s'informer correctement. Et plus que ça, je trouve que la cybersécurité, ça va être vraiment un enjeu de toute façon, ça l'est déjà aujourd'hui, mais ça va être un enjeu critique pour tous les pays et tous les... Ouais, tous les pays, puisque ça va toucher à l'infrastructure, à la sécurité des infrastructures d'un pays, des systèmes. Et donc voilà, donc ça a quand même une carrière assez intéressante, je trouve, qui allie à la fois technologie, à la fois protection. Ouais, il y a une notion de d'enquête aussi que je trouve intéressante pour aller identifier potentiellement les agresseurs, etc., les différentes techniques et stratégies pour infiltrer les systèmes. Voilà, je trouve que c'est quand même assez assez excitant en termes de carrière. Honnêtement, je me serais pas découvert une autre carrière d'ici là. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé considérer. Aujourd'hui, l'accent est mis sur le recrutement féminin. Car si le manque de personnel se fait sentir, l'absence de femmes est également un défi. Aujourd'hui, le milieu de la cybersécurité compterait uniquement 15% de femmes dans ses rangs aujourd'hui. Donc, en tout cas, voilà, vous le savez, il y a vraiment 15 000 postes vacants aujourd'hui et les besoins vont de toute façon continuer à augmenter. C'est une vraie carrière d'avenir. Si vous vous posez un petit peu les questions et que vous regardez un petit peu vos options, ben, franchement, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là et à vous renseigner et à tester votre intérêt ou pas pour cette carrière. Céleri nous dit, justement, on a une intervention jeudi pour le recrutement de femmes dans notre boîte. D'accord. C'est quoi ta boîte ? C'est dans quel domaine ? Dans la cybersécurité aussi ? Il y a Lorraine Père qui nous dit « Est le cybermois 2023, octobre 2023, une opération de la CNIL ?» Ah ben tu vois, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Ah ouais, tu bosses dans la cybersécurité, Céleri. Très bien. Donc voilà, très bien. Bon ben, en tout cas, voilà, moi je trouve ça plutôt excitant. Et en effet, c'est vrai qu'une série télé, ça pourrait permettre de sensibiliser et de démocratiser un petit peu ce genre de carrière qu'on ne connaît trop peu. T'es en cybersécurité chez un éditeur de logiciels pour rester vague mais un peu précis. C'est parfait, Céleri, merci beaucoup. très bien. En tout cas, voilà, ces enjeux, il ne faut pas sous-estimer parce que ces enjeux de cybersécurité, ils touchent toutes les sociétés. Et je peux en parler aussi du côté d'Alan. Dès qu'on touche à des données de santé, et Alan a accès à des données de santé de par les services qu'il propose, l'enjeu devient vraiment très critique en termes de cybersécurité. Mais voilà, la santé en est un, l'aspect financier en est un autre. Il y a plein de secteurs où justement l'enjeu de cybersécurité va être critique. Et c'est ça qui est intéressant. On n'est pas forcément employé dans une société de cybersécurité, mais on peut être employé dans beaucoup, beaucoup de boîtes différentes pour justement travailler sur ses propres systèmes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Enfin bref, les opportunités sont vraiment multiples. On enchaîne avec plutôt une partie streaming pour terminer tranquillement l'émission ce matin, avec notamment TF1 qui revient sur le devant de la scène avec un nouveau potentiel service de streaming. Première chaîne de télévision d'Europe, elle a décidé de se lancer de nouveau finalement dans l'univers du streaming après plusieurs tentatives, notamment le défunt Salto, mais aussi MyTF1 Max pour du contenu exclusif. Là, ici, TF1 mise désormais sur TF1+. Je ne sais pas ce qui se passe avec les plus actuellement, entre Disney+, Apple TV+, TF1+, et compagnie. Enfin, il y a un truc avec ce plus, là. Et donc, il rêve de se transformer en première plateforme de streaming gratuit. TF1+, est annoncé pour être disponible dès le 8 janvier 2024. Donc, ça arrive très vite, hein, à toute vitesse, un peu trop vite. Et donc, il va être financé par la publicité, comme certaines offres d'ailleurs de Netflix aujourd'hui, hein, vu qu'ils ont revu un petit peu leur modèle. La plateforme donc sera disponible sans abonnement. TF1+ prévoit de permettre d'accéder à des centaines de programmes gratuitement, films, séries, émissions. Le replay de TF1 va s'étendre de 7 jours aujourd'hui à 30 jours, donc ça c'est bienvenu aussi. Certains programmes resteront même jusqu'à 2 ans, comme sur les autres plateformes de streaming. TF1 indique aussi que les anciennes saisons de ces émissions comme Koh-Lanta ou The Voice seront proposées sur la plateforme. Et le groupe souhaite également proposer une offre de streaming ou d'information avec des contenus courts réalisés par sa rédaction. Est-ce que TF1+ va remplacer MyTF1? Pour l'instant, pas officiellement, parce qu'en fait, ils ne seront pas proposés sur les mêmes opérateurs. Certains ont accepté MyTF1, d'autres ont accepté TF1+. Comment accéder à TF1+? Eh bien, en fait, il sera déjà distribué sur certaines box Internet, comme Orange, SFR et Bouygues. Free n'est pas dans la liste, parce qu'ils ont un peu des relations connues, un peu tendues avec TF1. Le service sera aussi disponible sur les téléviseurs connectés type Samsung, LG, Hisense, Philips et Amazon Fire TV, donc Android TV. Pour l'instant, on n'a pas officiellement d'infos sur Apple TV, mais on sait que MyTF1 est déjà disponible sur la plateforme Apple. Donc bon, il y a quand même des chances que ça arrive, voilà. Est-ce que, en plus de la formule gratuite, donc la formule gratuite qui est celle de départ de TF1+, qui va donc du coup être financée par la publicité, hein, avant, pendant les programmes, etc. Donc ça, il faut le savoir. Est-ce que TF1+ proposera une formule payante? Pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. Ils vont commencer, a priori, avec juste une formule gratuite avec publicité pour voir s'ils arrivent à attirer déjà des personnes. Et je pense que c'est un bon premier test pour voir l'appétence potentiellement sur une formule payante. D'autres éléments qui ont été annoncés, notamment par le patron du groupe TF1, Rodolphe Belmer, c'est l'introduction de deux nouvelles fonctionnalités, notamment la fonctionnalité Top Chrono, qui se destine aux amateurs de foot, puisqu'en fait, elle permet d'obtenir le résumé d'un match sur mesure en indiquant une durée. Donc voilà, vous dites par exemple que vous avez genre 5 minutes, et ben vous récupérez un résumé du match en 5 minutes. Il y a également un système de recommandation pour toute la famille qui mélange les goûts de tous les habitants d'un foyer pour trouver le programme parfait. C'est un peu une fonction similaire à ce qu'on connaît chez Apple sur son application télé. Et donc du coup, voilà, pour rappel concernant TF1+, ça sera lancé en début d'année, puisque ça sera lancé le 8 janvier, et son lancement se coordinera justement avec le retour de Plus belle la vie à la télévision française, qui sera intégré au service de streaming directement, et également avec la première matinale d'information avec Bruce Toussaint aux commandes. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire rayonner la marque TF1+ pour qu'elle s'impose rapidement dans le cerveau des Français et des Françaises. Voilà pour TF1+. J'en profite pour remercier le Raid. Un grand, grand merci. Trop cool. Un grand merci également à Tiju de Pomme, à ZaxX et à Créatix pour vos abonnements et vos soutiens. Un grand merci à vous. Un grand merci à, du coup, à Monde de Jeu pour le Raid. 207 personnes, bienvenue à vous. Bienvenue sur l'émission Le Mug, la matinale qui débriefe de l'actualité tech. Ah mince, j'ai encore dit la marque. Je m'étais fixée sur un article spécifique à faire attention et donc du coup je me fais avoir sur tous les autres articles. Je vais pas y arriver ce matin. Vous êtes trop vigilants dans la chatroom. Je l'ai dit plein de fois sur cet article. J'ai dit tant que ça. Mince. Oups. Bref, on continue. Et on va parler d'autres programmes en rumeur, puisqu'on va parler potentiellement d'un film qui sortirait sur Elon Musk. Après Mark Zuckerberg avec The Social Network, après Steve Jobs avec le film Jobs, et Steve Jobs, puisqu'il y en a eu deux. C'est autour d'une autre figure de la tech. Est-ce que j'ai dit ? Non, je n'ai pas dit la marque. C'est bon. C'est miné hein, ce matin, en fait. Hein. Plus que ce que j'avais anticipé. Potentiellement, c'est une autre figure de la tech dont on va traiter en film. A priori, ça serait Elon Musk. Donc ça, c'est des sources partagées par Puck et Variety qui mentionnent qu'un film sur Elon Musk serait en développement, adapté du coup de la biographie officielle du créateur de Tesla et de SpaceX, écrite par Walter Isaacson, comme celle de Steve Jobs d'ailleurs. Ce biopic devrait être réalisé par Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, vous le connaissez notamment pour Requiem for a Dream, Black Swan, ou plus récemment le film dans la sphère. Mais attends, il a aussi fait un film qu'on a vu récemment. Je vérifie si je ne dis pas de bêtises. The Whale. The Whale qui a valu, je crois, l'Oscar du meilleur acteur. Oui, l'Oscar du meilleur acteur à Brendan Fraser. Oscar des meilleurs maquillages et coiffures. Et donc, The Whale, film très très marquant. Mais Darren Aronofsky, donc réalisateur reconnu hein, quand même dans le monde cinématographique. Pour ceux qui en effet connaissent pas, ben Black Swan a été quand même sa reconnaissance, ou Requiem for a Dream quand même. Déjà dès le départ, Requiem for a Dream était quand même quelque chose de très très connu. Moi, j'avais adoré The Fountain, en effet, Fancy Ride. The Fountain avec Rachel Weisz et Hugh Jackman, que j'avais trouvé formidable à l'époque. Et donc, du coup, ça serait lui qui serait aux manettes de ce nouveau film. Et donc, généralement, il a quand même des films... il traite de sujets soit difficiles, soit avec un traitement particulier. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Moi je suis pas passionnée par Elon Musk, mais bon, faut reconnaître que le personnage déjà a de la matière quand même pour donner un film intéressant. Mais alors en plus, quand vous mettez Darren Aronofsky aux commandes, ça peut être vraiment très très intéressant. Alors Bad Babylon, tu mentionnes quelque chose d'intéressant. Tu me dis peu probable qu'Aronofsky fasse un truc très élogieux. Non, c'est pas, j'en doute. C'est pas le style du réalisateur. Il a tendance quand même à être critique, à prendre du recul. Donc c'est ça aussi qui est encore plus intéressant. Qui va jouer Elon Musk ? Alors pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Personne ne le sait pour l'instant. Donc on n'a pas d'infos. Donc si l'existence de ce projet de film sur Elon Musk a bel et bien été confirmée, il n'y a pour l'instant aucun calendrier précis sur la sortie du film. La préparation de ce biopic, dont le recrutement des acteurs et le tournage pourrait prendre donc des mois, ce qui laisse supposer que le film n'arrivera certainement pas dans les salles obscures avant 2025 au moins. Donc il y a encore un peu le temps. Mais je trouvais ça quand même, je trouvais que ça valait la peine de le mentionner ce matin. Est-ce qu'il arrivera au niveau de Fincher avec The Social Network ? C'est vrai que le film était vraiment cool. Donc voilà. Et puis on termine ce matin avec un petit clin d'œil pour les fans d'Arkane, la série tirée de l'univers de League of Legends, le jeu phare de Riot, qui suit l'affrontement entre deux sœurs, Vi et Jinx, représentantes de deux mondes très différents, de la riche ville de Piltover et des quartiers pauvres de Zone. Et donc, série animée qui avait été disponible sur Netflix, que je vous conseille de rattraper pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1. Elle vaut vraiment, vraiment le coup, ne serait-ce que pour son ambiance, sa musique, et même l'histoire, on s'y prend vraiment. Et donc, tout simplement, Netflix a fait l'annonce pour la saison 2, de l'arrivée de la saison 2. Et elle est accompagnée d'une courte bande-annonce dans laquelle on ne voit à première vue que la silhouette de Jinx, la petite sœur de Do, qui s'éloigne justement des spectateurs. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir un petit peu dans cette toute petite vidéo, voilà un extrait. Hop, il faut que je reprenne mon iPad pour vous montrer le visuel. Hop, Non. Ça va arriver. Non. Oui. Voilà. Donc là, vous voyez un petit peu. Donc Jinx, c'est la silhouette de Jinx avec sa longue tresse et ses cheveux bleus. Vous pouvez voir que son ombre n'est pas elle, mais sa sœur, Vi. Puisqu'en fait, on a le Hextech, le bras mécanique, l'arme de Vi, là, qu'on peut voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que Vi, si on retourne l'image, Vi a l'air d'avoir des épaulettes assez impressionnantes et du coup d'avoir pas son habit qu'on connaît, mais plutôt une armure, quelque chose d'assez costaud, en tout cas sur le torse. Donc, ce qui pourrait dire aussi qu'elles sont prêtes pour la guerre. Et aussi, ce que vous ne voyez pas sur cette image, c'est qu'il y a des espèces de boules de feu qui tombent par intermittence. Donc voilà, avec cette ambiance un petit peu de brouillard rouge, avec ces boules de feu qui tombent, on sent un peu cette ambiance d'apocalypse et de fin du monde, avec cette opposition des deux sœurs qui risque du coup d'être encore très, très centrale pour la saison 2 du coup. Donc voilà un petit peu les indices qu'on a sur cette saison 2 pour Arcane. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle devrait arriver, alors attendez, j'avais la date, novembre 2024. C'est prévu pour novembre 2024. Donc voilà, donc vous êtes... oui, le visuel est super cool, ouais. Tout à fait. Moi, je suis assez emballée. C'est surtout vie dans l'ombre de Jinx. Ouais, ça peut être ça aussi. Dans un an, je pensais que ça arrivait bientôt. Bah, en fait, c'est long, hein, une série animée. Hein. Ça prend plus de temps qu'un tournage avec des humains. Hein. Et ouais, les temps de production sont plus longs. Il y a des petites mains qui font les dessins. Elle sera dispo sur Netflix. Vous pouvez retrouver du coup le trailer directement dans l'article de Numérama qui est partagé et épinglé. Voilà. Donc, il va falloir prendre son mal en patience un peu. Plus grève des scénaristes. C'est vrai, Fanny, tu fais bien de le rappeler. Plus grève des scénaristes et tout, j'imagine que ça a joué, ouais. Donc, voilà. C'est la fin de l'émission ce matin. Il est 9h22 et j'ai une question à laquelle je ne peux pas résister de FR Jess. Est-ce que tu as 2 minutes pour nous partager tes derniers coups de cœur de série? Écoute... je regarde, j'ouvre mon application. En tout cas, si vous avez besoin de chill un petit peu dans cette période assez difficile et angoissante avec tous les conflits dont on peut entendre parler, la montée de l'antisémitisme, etc. Enfin, c'est assez anxiogène en ce moment. Je vous conseille le dernier album de Beirut. Qui a le nom d'une ville en Norvège, je crois, Hadsel, qui est sortie vendredi dernier. Donc voilà, Beirut, groupe que j'aime beaucoup, mené par Zach Condon, qui a une voix magnifique. Voilà, donc vraiment, je vous conseille le dernier album. Et j'avais aussi conseillé, j'avais partagé sur Blue Sky, la session NPR de Arlo Parks, Tiny Desk Concert, un petit concert de quelques chansons de cet artiste qui a une voix merveilleuse et de très belle musique. Donc, je vous encourage à aller écouter ça pour vous relaxer un petit peu et vous faire une petite bulle protectrice. Voilà. En termes de séries, les séries que je regarde actuellement... Alors, j'ai regardé Jury Duty. Jury Duty, c'est un espèce de faux documentaire disponible sur Amazon Prime Video. De faux documentaire, vous allez voir le quotidien d'un jury lors d'un procès. Donc, en fait, vous avez des civils qui sont désignés pour être les membres d'un jury et acter sur une décision de justice. Et en fait, ce qui est intéressant, le retournement un peu de cette série, c'est que c'est un faux documentaire. C'est-à-dire que dans toutes les personnes que vous voyez à l'écran, ce sont tous des acteurs, à l'exception d'une personne, un membre du jury, qui ne sait pas qu'il est au milieu d'un tournage. Donc c'est un peu un mix entre télé-réalité, TV, enfin, ou Truman Show, etc. Où en fait vous avez une personne qui est la seule à ne pas être au courant que c'est un faux tournage et que c'est un faux procès. Et donc pour elle, les enjeux sont réels, c'est-à-dire que toutes les situations à laquelle cette personne va être confrontée vont être réelles pour elle, vont avoir des vrais enjeux. Il va avoir le futur de la vie d'une personne qui est sujette dans ce procès entre les mains. Il va gérer les conflits entre les jurés, etc., etc. Il va devoir gérer le juge aussi, potentiellement l'acteur, parce qu'il y a James Marsden, le Cyclope de X-Men, ou qui est aussi dans Enchanted ou dans d'autres films, dans The Notebook aussi, où il joue le rôle de l'autre mec. C'est affreux de dire ça. Et donc voilà, donc James Marsden, l'acteur, joue son propre rôle d'acteur. Il est excellent d'ailleurs dans son rôle, pas acteur raté, mais acteur qui se croit plus célèbre qu'il ne l'est. Et donc tout le monde a un peu du mal à le remettre. Il a joué dans Westworld aussi d'ailleurs, exactement, merci Fanny pour le rappel. Et donc il joue son propre rôle, mais un peu insupportable. Et donc Jury Duty, j'avais un peu peur honnêtement, parce que je trouvais un peu ça, ça fait un peu dîner de con, en mode il n'y a qu'une personne qui n'est pas au courant et on se fout un peu de sa gueule. Et en fait, pas du tout. Parce que la personne qu'ils ont recrutée, elle est profondément bonne. Enfin, c'est quelqu'un de foncièrement bon, qui va toujours essayer d'arranger les gens, qui va être, qui va s'attacher au personnage. Et j'ai trouvé ça très très attachant. Genre, au fur et à mesure des épisodes, on se dit mais ce mec est parfait. Genre, il va être confronté à des choix éthiques, épineux. Il y a des situations complètement loufoques. À un moment donné, on va se dire, mais il va se dire, c'est pas possible. Et d'ailleurs, il est à la limite, mais il va toujours agir de manière très honnête, très responsable, très respectueuse. Et donc, du coup, en fait, on aime beaucoup le suivre, du coup, parce qu'il nous redonne foi en humanité, en fait. C'est un peu pour dire ça, pour simplifier. Et donc, du coup, c'est assez... ça fait du bien, ça fait du bien. C'est assez rigolo. Les personnages sont très chouettes, très bien joués. Et à la fin, le dernier épisode, c'est quand il lui dévoile la vérité. Et donc, c'est assez touchant. Et on revient un petit peu sur tous les moments du tournage du faux documentaire et les moments où ça a failli tourner au vinaigre, ou les erreurs des acteurs, quand ils ont dit les vrais prénoms des acteurs au lieu des personnages, etc. Les coulisses avec les caméras cachées, etc. Et c'est assez, assez chouette. Voilà. Donc ça m'a fait... ça a été un peu feel good. Jury Duty sur Amazon Prime Video. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi ? Lessons in Chemistry. Sur Apple TV, vous allez suivre le quotidien dans les années 1950 d'Elizabeth Zott, qui est une scientifique. Et en fait, comme ça se passe dans les années 50, elle va tout le temps être remise en question de par le fait qu'elle est une femme. On ne va jamais la prendre de manière crédible. Merci beaucoup pour le raid, Super Natif. Un grand, grand merci et bienvenue à vous tous. On débriefe un petit peu des dernières séries sympas à regarder. Et donc là, je parle de Lessons in Chemistry sur Apple TV. Et donc, on suit le quotidien d'Elizabeth Zott qui va rencontrer plein d'obstacles finalement durant sa vie et durant sa carrière, où en fait, elle aspire à être une scientifique. Elle est une scientifique experte, sauf que de par la société et les clichés à cette époque-là, on va lui mettre des bâtons dans les roues et elle va du coup se retrouver à accepter un emploi dans une émission de cuisine télévisée où elle va apprendre, elle va entreprendre d'apprendre à cuisiner mais de manière assez spéciale, en alliant sa passion de la science et de la cuisine. Et donc, c'est assez, assez étonnant. Voilà. Donc, je trouve que les premiers épisodes sont très bluffants parce qu'ils arrivent à nous accrocher sur le personnage très, très vite. Alors que le personnage peut être un peu antipathique parce qu'elle est un peu asociale, un peu étrange. Mais elle va être attachante par sa manière de gérer les situations, par les rencontres qu'elle va faire. Bon, alors, il commence directement avec une histoire d'amour. Mais ça va pas s'arrêter là. C'est pas le cœur de la série, loin de là. Ça ne se limite qu'à un épisode, je pense. Et puis après, ça va plus loin. J'ai hâte, j'ai raté l'épisode de vendredi, là. J'ai hâte de voir la suite. Mais voilà, pour l'instant, assez emballé. Je trouve que les acteurs sont tous justes. Et je trouve ça bien d'aborder un petit peu le point de vue des années 50 d'un point de vue féminin et d'un point de vue voilà, d'une femme qui aspire à autre chose que fonder un foyer et les choix auxquels elle est confrontée qui veulent dire quelque chose de différent quand on est une femme que quand on est un homme, spécifiquement à l'époque. Voilà, donc je trouve ça bien foutu. L'actrice Brie Larson est vraiment formidable. Moi, j'aime beaucoup aussi l'actrice qui joue la voisine, qui est Aja Naomi King, que je trouve vraiment très chouette aussi. Vraiment, vraiment très, très bien. Mais tous les acteurs sont bien dans la série. Voilà, le générique est très chouette aussi. Le générique est très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres séries que je suis j'ai terminé Star Trek Strange New World, la saison 2, que j'ai beaucoup aimé. On a terminé Invasion, j'ai pas du tout aimé la saison 2. J'ai trouvé très poussive, très laborieuse. J'avais beaucoup aimé la saison 1, mais honnêtement, la saison 2, pas du tout, du tout convaincue. Il se passe pas grand-chose, ça patine. J'ai l'impression qu'ils ont dilué l'intrigue parmi tous les épisodes, et c'est dommage parce que les acteurs sont formidables. Et l'ambiance est chouette, et on s'est attaché au personnage aussi, mais je trouve que vraiment ça avance trop lentement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Loki, on a commencé la saison 2, pour être honnête, on la trouve un peu laborieuse, on a du mal à s'y mettre. Pourtant, il y a des personnages sympas comme Ouroboros, avec l'acteur d'Indiana Jones, mais ouais, pour l'instant, pas très convaincue par la saison 2. Upload, saison 3, pas convaincue non plus. Donc alors, attendez, j'ai parlé de Invasion, c'est sur Apple TV. Loki, c'est sur Disney+. Upload, c'est sur Amazon Prime TV. Amazon Prime Vidéo, désolé, avec tous les noms de plateformes, je me mélange les pinceaux. Pas très convaincue par la saison 3. Déjà la saison 2, voilà. Saison 3, ça s'use. Que ce soit les gags, Loki, j'étais pas convaincue non plus, mais finalement c'est la meilleure série de Disney+. J'en dis pas plus. Faut juste continuer. Mais attends, parce que les épisodes sortent. Semaine après semaine. Et j'en ai raté que un. Ah non, on en a raté pas mal. On a 3 de plus qui sont sortis. On a 4 en retard. Pardon, on en a 4 en retard. Donc en effet, peut-être que... Tu dis ça vaut la peine de s'accrocher quand même. D'accord. Bah, merci Spongy. Écoute, tu nous dis de nous accrocher pour Loki saison 2. Très bien. T'as aimé la saison 2 de Invasion par rapport à la saison 1? Pas du tout. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça très très long. Très très long, très très lent. Vous me tendez des pièges sur les plateformes, les noms des plateformes. Évidemment que j'ai dit le nom de la marque. Oh là là, c'est pas possible. Vous m'avez coincé. Je confirme, la fin de Loki vaut le coup. Ah là là! Très bien. For All Mankind vient de reprendre, on a vu le premier épisode hier. Mais je vais faire ma rabat-joie. Ça m'a énervée. Pourquoi ça m'a énervée le nouvel épisode de For All Mankind? Parce qu'ils nous ont viré tous les personnages féminins, enfin la plupart des personnages féminins, mais ils n'ont pas fait l'impasse sur le personnage masculin principal. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est un vieux crouton qui n'a rien à faire dans l'espace. C'est absolument pas plausible que le mec il soit encore dans une station spatiale dans l'espace. C'est absolument pas crédible. Ed, tu dois aller à la retraite. C'est fini, là. Mais à côté de ça, on en a tué deux. On a tué deux femmes qui étaient des personnages majeurs. Et d'ailleurs, on s'y attarde pas beaucoup. Hein, voilà. Donc franchement, l'ex-femme de Ed, qui avait fait un retour hyper intéressant en termes de carrière, on l'a virée très très vite. Molly, astronaute, super badass, pareil. L'ancienne présidente des États-Unis, pour l'instant, elle est absente. Enfin bref, j'étais là, non mais on a fait le ménage en termes de personnages féminins. Qu'est-ce qui s'est passé là? La direction de la série, il n'y a que des mecs qui ont pris la tête ou quoi? Donc je trouvais cette série super cool parce que justement, elle rétablissait un petit peu, rétablissait un petit peu un certain équilibre. Mais là, le premier épisode, c'est ridicule. Alors, agisme, c'est pas de l'agisme. Je veux dire, quand t'es dans des conditions, dans un environnement très exigeant physiquement, qui est l'espace, je veux dire, tu peux pas imaginer que à 60 ans passés ou je sais pas quoi, le mec il soit encore dans l'espace. C'est juste pas plausible. Non. Voilà. Donc, moi, pas contente. Pas contente du tout. Voilà. C'était mon coup de gueule du matin. voilà, bref. Pauvre Captain Picard. Alors, c'est pas la même chose, je trouve, pour Star Trek. Je trouve que c'est pas la même chose parce que là, on est tellement loin dans le futur qu'en fait, on peut accepter que du coup, ils ont résolu des problématiques sur l'impact de l'espace sur le corps, etc. Tu vois, pour moi, c'est différent. C'est plus acceptable, en effet. Alors que là, en termes d'années, c'est clairement ancré dans un temps identifiable. Et c'est pas crédible que dans les années 80, dans les années 2000, on ait résolu ces problèmes-là. Bref. Voilà. sur ce, il est 9h37. Je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Je termine sur un coup de gueule. Mais je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la mardi prochain pour la prochaine émission en ma compagnie. Mais d'ici là, vous retrouvez de toute façon Guillaume demain matin pour l'émission Le Mug. Avant de se quitter, on va voir si on fait un petit raid quand même, pour pas vous laisser en plan. Eh ben, on va aller faire un tour du côté de Samuel Etienne, qui nous parle de Fall Guys, a priori. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt. Bye bye.